et je passe mon temps chez les manzingues où se compresse la révolution. C'est vrai que je comprends pas grand chose à tout ce qu'ils disent les orateurs, mais je sais qu'ils parlent pour la bonne cause et qu'ils tapent sur les exploiteurs. Pourvu qu'on chine le ministère, qu'on engueule ton mal et ton tort, et qu'on parle de tout foutre par terre, j'applaudis d'achat et de tort. C'est d'une simplicité biblique, d'abord faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement, plus de salaud qui vit à sa guise, pendant que nous on un mal de chien, plus de loi, plus d'armée, plus d'église, faut plus de tout ça, faut plus de rien. Alors c'est nous qui sera les maîtres, c'est nous qui fera ce que nous.
Et oui, on fera ce qu'on vous rend, je sais pas quoi, je suis pas sûr, ça sera peut-être pas comme ça, enfin on verra bien. C'est demain le grand soir sur Radio Béton 93.6 et nous avons à l'antenne Céline et Zazou.
Bonjour.
Et donc seulement dirais-je, puisque David ne sera pas avec nous ce soir, et donc on va faire un numéro pas spécial d'ailleurs, c'est notre hebdo, avec des invités, un invité tout du moins du MRAP, ça sera un insert téléphonique tout à l'heure. Puisqu'il y a une actualité sur Monsieur Giraud de Langlade, le préfet d'Indre-et-Loire. On a parlé aussi beaucoup de préfet cette journée dans les médias. On peut peut-être en parler tout à l'heure d'ailleurs, hein, parce que les préfets avaient des comptes à rendre. Une vingtaine de préfets étaient convoqués au ministère parce qu'ils n'avaient pas fait leurs chiffres. C'est assez odieux de dire des choses comme ça, mais il y a un chiffre d'immigrés à virer. Et donc... ils étaient en deçà du quota qu'ils devaient faire, et donc ils ont été rappelés à l'ordre, tensés. Et les menaces qui pèsent sur eux, ce sont des menaces financières. Alors c'est là aussi, on est dans l'odieux, hein. Parce que ces menaces financières, ils ont un bonus, hein, sur leur paye. Alors un préfet s'est payé je ne sais pas combien de milliers d'euros par mois, et ils ont 12% de paye en plus s'ils atteignent les objectifs financiers, dirais-je. Non, les objectifs de virer tant d'immigrés sur leur département, c'est quand même absolument odieux, mais c'est la réalité.
Apparemment, le quota que désirait atteindre le président est de 25 000 reconduites à la frontière sur l'ensemble du territoire, évidemment, hein, pas par département.
Ils en sont
à 6 000 et quelques, je ne sais plus, les chiffres.
C'est plutôt 11 000. Mais
11 000
ils ne sont pas dans les chiffres, en tous les cas. Et il faut savoir que ce fameux chiffre, il a quand même été multiplié par 10, hein, ces 15 dernières années, ce qui est quand même assez considérable. Et... donc bah voilà quoi, donc les préfets obtiennent une surprime, hein, s'ils virent leur nombre d'immigrés. Et puis c'est un objectif, hein, comme des objectifs financiers dans les boîtes et tout ça, enfin voilà où on en est dans cette putain de société qui tourne véritablement pas rond, hein. C'est assez glauque tout ça. Donc mais on est dans une France sarkozyste, donc évidemment on savait où on foutait les pieds.
Ben oui.
En tous les cas, ceux qui ont voté Sarko, et qui sont nombreux quand même.
Ah, il paraît qu'il y en a qui sont un peu surpris malgré tout.
Ah ouais, ben, il y a des cons partout. Donc voilà. Et autrement, ben, il y a de l'actualité sociale évidemment, parce qu'il va y en avoir beaucoup a priori, parce que Sarko commence à s'attaquer. Bon, a fait pas mal de trucs cet été, mais là il s'attaque aux régimes spéciaux de retraite et tout ça. Il risque d'y avoir quand même des ripostes qui vont mettre en branle. Il risque d'y avoir des mouvements aussi autour des fameuses franchises médicales. Hein, mais on vous tiendra au courant de tout ça. En entendant, immédiatement, il y a des luttes dans les boîtes, où il y a des boîtes qui disparaissent. Hein. Donc Télintrans, c'est une boîte, on les avait invités plusieurs fois à l'antenne, hein, c'était une filiale, une sous-filiale de La Poste, hein, secteur informatique de La Poste, de la filiale de La Poste qui s'appelle Géopost, hein, qui s'occupe des courriers, quoi. Et donc, il y avait une centaine de salariés sur Tours, hein, c'était une boîte qui était sur Angers, Tours et Rungis. Donc, il ne reste plus aujourd'hui que Rungis, hein, puisque Angers a été éliminé, et Tours a été éliminé au bout de plusieurs mois. Et donc, tous les salariés ont été éjectés. Là, il n'y a plus personne sur le site. Et il y en a eu quand même pas mal. Il y a eu, pas un plan social, hein, c'est un accord de méthode, ça remplace les plans sociaux. Hein, c'est un truc qui a été pondu par l'ancien gouvernement. Et donc, dans cet accord de méthode, si on veut, le groupe La Poste, hein, qui quand même était... à qui appartenait cette société, hein, cette filiale, devait s'engager à suivre les salariés licenciés et à leur proposer aussi un certain nombre d'emplois, ce qui qui n'a pas été fait. Donc, il y a des contestations au tribunal qui ont été déjà déposées en début d'année. Il va y en avoir au moins une vingtaine collectives qui vont être déposées dans les jours qui viennent. Sur le fait que le plan social a été vraiment sabordé par la maison mère, c'est-à-dire la Poste, et sur le fait aussi que le motif de licenciement de tous ces gens-là, c'est quand même donc 80 personnes sur la ville de Tours, c'était un licenciement économique, ce qui est totalement faux, hein, puisque en fait Télintrans avait environ 80% de son chiffre d'affaires avec la Poste, et la Poste lui a décidé apparemment de lui retirer ce marché. Donc du jour au lendemain. Et donc évidemment, il ne s'agit pas d'une faillite, hein, mais il s'agit vraiment d'un montage dans le groupe La Poste. La Poste a décidé de s'occuper elle-même ou d'externaliser ces affaires-là, son informatique courrier. Et donc, il va y avoir donc des procédures. On vous tiendra évidemment au courant. La presse en a quand même pas mal parlé ces deux derniers jours. Et évidemment, nous, on vous tiendra au courant, voire on invitera des ex-salariés à cette antenne. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui étaient à béton, qui tournaient à béton, qui étaient aussi à Télintrans. Mmh. On est dans l'œil du cyclone, dirais-je. Et autrement, sur les mouvements sociaux, il y a toujours les problématiques assez hallucinantes de ce qui se passe à Sorigny, au centre de tri, puisque la Poste a, cet été, et continue à le faire, a dénoncé tous les préavis de grève déposés par celui de PTT, hein, sur des motifs assez hallucinants, puisque, grosso modo, pour simplifier, les motifs ne lui plaisent pas. Donc c'est la première fois dans l'histoire sociale de ce pays qu'un patron dénonce à motivation de grève de ses salariés sur le fait que ça correspond pas à ce qu'elle voudrait entendre dans un préavis de grève. Donc il y a eu des contestations évidemment devant l'inspection du travail et aussi devant la justice. Il y a un arrêt de la Cour de Paris, de TGI de Paris, là, qui date d'il y a une dizaine de jours, qui évidemment condamne la Poste sur cette affaire, mais elle continue à faire comme si de rien n'était. Et le lendemain de l'arrêt, elle a envoyé tous les cadres supérieurs de la direction de la Poste de Tours à la PIC, donc au centre de tri de Sorigny, distribuer des torchons aux salariés, leur indiquant que finalement Sud, qui avait gagné au tribunal, avait perdu. Hein, c'est-à-dire que on continue.
C'est pareil, la décision lui plaisait pas.
Voilà. Donc ils sont prêts à tout. Alors ils sont plus à droite, à l'extrême droite, dirais-je, actuellement sur ce terrain-là que Sarkozy. Hein,
Et tu voulais dire qu'avant 2007, ils étaient d'accord ?
Je sais pas, il s'est passé beaucoup de choses dans cette année. Elle n'est pas finie d'ailleurs, donc, et on aura l'occasion évidemment de vous conter les histoires de la. Ces histoires postales qui, à mon avis, ne vont pas s'arrêter d'ici peu. Et donc, autre mouvement social, c'est à la CAF, hein, Caisse d'allocation familiale. Il y avait une grève jeudi dernier, reconduite ce jeudi, demain, donc, avec une énorme majorité du personnel en grève, des assemblées générales groupant 80-100 personnes, donc vraiment tout le monde est sur le tas. Donc, au départ, initié par la CFDT, enfin, ils n'en avaient pas parlé, la SUD, qui est la principale section syndicale quand même de la CAF, donc ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas faire sans, et donc c'est une grève unitaire, ouf, CFDT Sud, avec une énorme majorité donc du personnel. Et pourquoi ils se mettent en grève? Parce que, tout simplement, il y a une charge de travail de plus en plus importante, voire disproportionnée, et il y a évidemment pas assez d'employés pour l'assumer. Alors, ce qu'ils avaient trouvé comme combine, c'était imposer des heures supplémentaires le samedi matin.
Hein, le fameux travailler plus pour gagner plus.
Avant que Sarkozy arrive au pouvoir, hein, c'était des idées qui germaient. Et donc, comme ils n'avaient pas assez de personnel pour faire le boulot, la CAF est fermée le samedi, évidemment. Et donc, ils imposaient aux salariés de bosser le samedi matin en heure sup pour apurer les comptes. Donc, il y a visiblement tous les salariés, enfin, une énorme majorité du personnel est très remontée contre cette situation. Hein, et il faut savoir que la direction de la CAF ne cherche pas à négocier. Il n'y a pas eu de rencontre avec les organisations syndicales. Hein, ils font la sourde oreille. Ils ont quand même plus de 80% du personnel à dos. C'est pas un personnel qui est forcément très très connu pour ses luttes dures. Mais c'est assez hallucinant qu'il y ait vraiment ces rapports de force imposés directement comme ça, de façon finalement assez violente. Quoi. On refuse de discuter avec les salariés. C'est pas très brillant. Mais c'est la France de Sarko, évidemment. Il faut s'y habituer, y compris les gens qui sont déçus par la situation. Hein. Donc, il doit y avoir tout un tas de choses à dire, mais on va faire une pause musicale, hein, parce que c'est comme ça. Et on va vous passer le dernier volo. Hein. Donc, c'est comme le titre, c'est comme. Hein. Et les volos, ça sera d'une actualité sur l'émission, puisque le mois prochain, on ne sait pas exactement quand, mais on le saura un jour ou l'autre. Eh bien, on va les inviter, hein, puisqu'ils vont passer au bateau ivre à Tours, donc il y aura une actualité importante sur les volos. Donc, à tout de suite, ma foi.
Socialiste, compagnon radical ultra, révolutionnaire anarchiste, etc., etc. Aussi je vais dans tous les métingues, jamais je ne rate une réunion. Et je passe mon temps chez les manzingues, où se compresse la révolution.
Et la révolution, c'est demain le grand soir, une émission qui est diffusée sur Radio Béton 93.6, une émission qui est rediffusée tous les lundis matins de 10h à 11h. Et donc, on avait prévu une invitée locale qui n'est pas là, Va-t-on savoir pourquoi elle n'est pas là.
Je ne sais pas, je n'arrive pas à la joindre au téléphone. Donc on saura sans doute plus tard les raisons de son retard ou de son absence. En attendant aussi, nous avons donc en ligne M. Mouloud Aounit, qui est donc le président du MRAP sur Paris, et que nous avons voulu inviter ce soir, donc téléphoniquement, évidemment, de Paris, à propos du procès de Paul Giraud de Langlade, vu que c'est le MRAP qui a porté plainte contre les propos tenus par ce monsieur, dont je rappelle qu'il est le préfet d'Indre-et-Loire, il y a de ça quoi, quelques mois, à propos des étrangers et des Roms en particulier. Alors, Mouloud, est-ce que vous me recevez ?
Tout à fait.
Voilà, alors moi par contre je vous reçois que très très peu. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, alors avant de commencer à parler un petit peu du contenu de ce procès et de vos espoirs et de l'intérêt de porter plainte contre un monsieur comme Paul Giraud de Langlade, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'est le MRAP et vous présenter à l'antenne, puisque sur Tours, ce n'est pas très très connu.
Bien, bah écoutez, le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. C'est un mouvement qui est né dans les années 1947, dans une période qui était marqué par une très très forte réalité du racisme que représentait l'antisémitisme et en même temps qui était un mouvement dont les premières initiatives étaient d'organiser une solidarité sur l'ensemble du territoire pour éviter que des enfants juifs puissent être envoyés en déportation. Et parallèlement, ils menaient un combat politique contre l'idéologie nazie dont malheureusement aujourd'hui l'actualité nous montre qu'elle n'est pas complètement éteinte. Ensuite, le MRAP est un mouvement qui s'est enraciné dans le combat et adapté malheureusement aux formes nouvelles de racisme, que ce soit sur le plan international. Je pense notamment à deux grandes luttes que le MRAP a menées et qui sont reconnues comme telles. La lutte contre l'apartheid, et effectivement au moment où il y a la Coupe du Monde de rugby, nous sommes très sollicités dans le cadre de cette histoire de la solidarité que le MRAP a eue vis-à-vis de ceux qui se sont battus contre ce racisme institutionnel. Nous nous sommes aussi battus pour l'indépendance des peuples et en même temps contre toutes les formes de colonisation et le racisme qui s'en est suivi. Et je pense notamment à la mobilisation du MRAP au moment de la guerre d'Algérie et y compris sa solidarité avec les victimes de ce racisme en France et en même temps ce combat pour l'autodétermination des peuples. Et puis le MRAP a dansé, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais vous pouvez retrouver sur Internet, mais l'une de ses grandes conquêtes, si je puis m'exprimer ainsi, ça a été que les fondateurs du MRAP ont quasiment écrit la loi française contre le racisme, cette loi qui fait que le racisme n'est pas une opinion mais un délit, et qui, après 13 années de lutte, a permis à ce que l'Assemblée nationale, comme le Sénat, vote à l'unanimité cette loi qui nous a encore servi aujourd'hui dans le cadre de la profanation du cimetière en Alsace. Et puis le MRAP, c'est un mouvement qui lutte contre tous les racismes. On a comme ligne directrice l'unicité du racisme, c'est-à-dire que le racisme, il est un et indivisible, même s'il prend des formes différentes. Et notre combat va non seulement dans une action de solidarité vis-à-vis des victimes, mais en même temps une action d'accompagnement, de suivi à l'endroit de tous ceux qui aujourd'hui, en France comme dans le monde, souffrent de ce poison.
Alors, donc là, si j'ai tout compris, donc vous n'êtes pas une association uniquement nationale, mais internationale, alors ?
Oui, tout à fait, parce que nous avons dans notre combat, non seulement le combat contre le racisme, mais aussi pour l'amitié entre les peuples. Et on estime effectivement, au nom de l'universalité des valeurs qui fondent notre mouvement, eh bien, nous estimons qu'on ne peut pas s'arrêter à la solidarité uniquement sur le territoire national. On ne peut pas lutter contre les discriminations dont peuvent faire l'objet un nombre de personnes, contre le racisme qui peut exister en France, et de l'autre côté, ne pas être porteur aussi des souffrances, des douleurs, des exigences de réparation d'hommes, de femmes, de peuples qui sont aujourd'hui attaqués et remis en cause dans leur existence et leur droit à la reconnaissance. C'est la raison pour laquelle aussi le MRAP, nous sommes implantés aujourd'hui dans plus de 200 villes de France, où nous avons des comités locaux, comme chez vous, et puis nous avons aussi un statut auprès des Nations Unies, puisqu'on est membre de la sous-commission des droits de l'homme, et nous siégeons régulièrement aux travaux de cette sous-commission à Genève et à New York.
D'accord, donc vous interpellez aussi les politiques sur les textes de loi.
Alors évidemment, le travail du MRAP, c'est un travail qui est un travail de solidarité, d'accompagnement et d'exigence de réparation individuelle. Mais en même temps, nous sommes un mouvement qui insère aussi son combat dans un combat politique, pas au sens politicien du terme, à savoir, effectivement, nous estimons qu'il y a des réponses qui doivent être apportées dans le combat contre le racisme, les réponses de la loi, bien sûr, les réponses éducatives qui sont importantes. Le travail sur les mentalités me paraît un élément déterminant pour faire avancer les consciences et la reconnaissance de l'autre. Le travail sur les mémoires et en même temps sur le travail politique, parce que il y a un certain nombre de discours, on l'a vu dans la dernière période, mais y compris dans l'histoire du rapport entre la France et l'immigration, qui instrumentalise la thématique de l'immigration avec parfois des effets ravageurs sur le racisme. Donc nous estimons qu'il y a aussi nécessité à ce qu'il y ait des réponses politiques dans ce combat-là. Et il est évident que au-delà d'un travail d'interpellation, nous faisons aussi un travail de mobilisation. Et l'autre identité du MRAP, c'est que nous avons non seulement des victimes du racisme, mais nous avons aussi des gens qui ne sont absolument pas victimes du racisme, mais qui estiment que leur humanité est remise en cause dès lors que l'humanité d'une personne, parce que née, est elle-même remise en cause. Donc c'est aussi cette fusion entre des victimes de tous les racismes et des gens qui, en France, sont français, ne sont peut-être pas victimes du racisme, mais qui estiment que cette plaie que peut représenter le racisme est aussi une offense à leur propre conscience. Et puis en même temps, je pense qu'il est important, et nous le faisons, eh bien, de participer aux mobilisations pour mettre en avant une seule idée, c'est que le racisme ne peut pas être une opinion, c'est un fait grave, c'est un délit, et qu'à cet égard, quelle que soit la personne qui tient les propos, qui participe à une activité de discrimination, ou qui de manière, j'allais dire, détournée ou par ricochet, par un discours politique ou par une instrumentalisation de cette thématique, eh bien, concourt au développement du racisme, il est évident que nous sommes présents dans les mobilisations citoyennes.
Oui, alors bien sûr, une de vos armes pour combattre ce racisme, c'est évidemment la procédure et le fait donc là d'avoir mis un procès à Paul Giraud de Langlade participe à faire reculer ce racisme qui avance et qui pourrait s'institutionnaliser à travers des propos que des gens n'ont pas à tenir, surtout dans le cadre des fonctions qu'ils occupent, puisque là on a affaire à un préfet. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur cette démarche et qu'est-ce que vous en attendez ? Je sais que donc le procès a lieu demain à Orléans. Je suppose que donc le MRAV y sera forcément présent. Quels sont vos espoirs par rapport à ce type de personnage et de ce type de procédure qui vise finalement à pénaliser les propos qu'il tient ?
Écoutez, je crois que d'abord, nous estimons que personne ne peut s'absoudre des foudres et de la mobilisation des hommes et des femmes qui, dans la République, ne supportent pas qu'on puisse, par des propos, par des attitudes, eh bien, blesser des gens. Je pense que le citoyen lambda a une responsabilité. Les groupes, on a vu sur cette dernière période comment nous sommes battus aussi contre somme de partis, notamment je pense au Front National et d'autres qui font du racisme et de l'attaque vis-à-vis des immigrés leur fond de commerce depuis des années. Et on a vu comment parfois, entre les mots et l'idéologie, on pouvait passer aux actes. Là encore, les crimes racistes qu'on a vus cette dernière période et en même temps ce qui s'est passé à la profanation du cimetière en Alsace montrent à quel point il y a une étanchéité entre des propos, une idéologie et le passage à l'acte. Et en même temps, cette unicité, et je reviens encore sur cette affaire en Alsace, où, eh bien, de la profanation de cimetières juifs, il y a eu aussi le meurtre d'un Marocain dont les auteurs seront jugés là-dessus. Je dis ça parce que il y a des gens, mais là, en la circonstance, pour ce qui concerne M. Langlade, nous sommes dans une double logique inacceptable. La première, c'est d'abord la répétition, puisque M. Langlade s'était déjà exprimé contre les populations, et notamment les gens du voyage. Or, je dois le dire, et c'est un constat amer que je fais, je pense que les Tziganes, les gens du voyage, les Roms, font l'objet aujourd'hui, comme de, pas qu'aujourd'hui, depuis même des années, de discrimination, de racisme, de stigmatisation et de préjugés qui, malheureusement, n'émeut pas beaucoup de gens, et y compris, et je le déplore, n'a pas amené les mobilisations adéquates. Ça a été, d'une certaine manière, un peu les gens du voyage, les laisser pour compte des mobilisations antiracistes. Donc, nous avons toujours été à leur côté. Eux, ils le savent, leur association le sait très bien. Et au-delà du travail sur à la fois la connaissance de ce que sont ces hommes, ces femmes, leur culture, nous nous battons contre les préjugés, mais en même temps, nous sommes vigilants. Or, nous, ce qui entretient le racisme, ce sont les amalgames. C'est-à-dire le fait qu'on puisse, à un moment donné, tenir des propos qui participent à l'amalgame entre telle population, la violence, l'insécurité. Or là, qu'un représentant, et c'est le deuxième élément plus grave, qui est un représentant de l'État, c'est-à-dire le préfet qui doit appliquer les lois de la République, qui n'accepte aucune discrimination, s'autorise déjà à dire en octobre 2002 que, au cours d'un journal télévisé, que les gens du voyage vivaient au crochet de la société française et qu'ils vivaient de rapines et d'escroqueries, devant des millions de téléspectateurs, c'est déjà quelque chose de terriblement offensant. Et quand on a vu ensuite que ce dernier, le 23 novembre 2006, prolonge ce discours en disant que, évidemment, il y avait trop de gens du voyage dans le département, qu'on a trop été laxiste, et on sait que quand ils arrivent quelque part, il y a de la délinquance. Là encore, cette association entre gens du voyage et délinquants, cet amalgame qui participe d'une certaine manière à une incitation à rejeter les gens du voyage parce qu'effectivement ils représentent un danger. Eh bien, tenu de la part du citoyen lambda, c'est inacceptable, mais de la part du représentant de l'État, nous estimons que c'est d'une gravité extrême. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé des poursuites judiciaires contre M. Langlade, et il devra répondre en tant que préfet de la responsabilité de ses propos. Et j'estime personnellement que lorsqu'on est détenteur de la force et de la puissance publique, lorsqu'on représente l'État, lorsqu'on est préfet, on doit donner l'exemple. Or, et en la circonstance, j'ose espérer que les condamnations seront à la hauteur de cette offense dont M. de Langlade a participé.
Eh bien, on espère aussi. Là, pour l'instant, nous allons faire une toute petite pause musicale pour permettre aux auditeurs un peu de digérer tout ce que vous nous avez appris sur ce procès. Et on se retrouve d'ici 2-3 minutes, peut-être aussi, pour parler de cette fameuse réunion publique concernant le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, puisque le MRAP a répondu à l'appel du collectif Unis contre une immigration jetable, et peut-être faire un petit bilan là-dessus.
Oui, tout à fait.
Ouais. À tout à l'heure. Merci.
À donc on va se faire une petite pause avec le juge Fulton, c'est un sorte d'ovni, donc on vous en avait parlé quand on l'avait reçu ce CD, et donc c'est je suis un artiste, il nous chante avec un certain monsieur qui s'appelle Didier Wampas, c'est absolument croquant cette musique.
Je suis un artiste, mon nom est en haut de l'affiche, toujours sympathique. Titre pour un large public, des tubes en plastique qui passent en radio. Je fais des émissions, je donne de mon temps, toujours me montrer, c'est ça l'important. Les soirs de gala, je mets mon bonheur,
la famine, le Darfour, la tuberculose, la Suisse.
J'écris sur les pauvres.
Les pauvres.
Je suis un artiste.
Un socialiste, compagnon radical ultra, révolutionnaire, anarchiste, etc., etc. Aussi je vais dans tous les métingues, jamais je ne rate une réunion. Et je passe mon temps chez les...
Et oui, c'est toujours demain le grand soir sur Radio Béton 93.6, une émission qui est rediffusée tous les lundis, le matin de 10h à 11h. Et on était à l'antenne par téléphone interposé avec le président national du MRAP.
Voilà, monsieur Moulid Aounit, et c'est vrai que au niveau téléphone, c'est un peu une première pour nous. On n'est pas très au point au niveau technique, et donc on espère qu'on ne vous a pas perdu, mais monsieur Moulid Aounit.
Non, je suis toujours là.
Voilà, c'est génial ça. c'est beau la technique. C'est-à-dire que quand on passe la musique, moi je pensais pouvoir rester en communication avec vous, et en fait c'est pas passé. Enfin bon, c'est pas grave. Les auditeurs ne se sont aperçus de rien. Oui, on avait parlé du procès de Paul Giraud de Langlade, et là j'aurais aimé que l'on revienne un petit peu sur la journée du 11 septembre, où il y avait une réunion publique à l'Assemblée nationale sur invitation de Uni contre une immigration jetable. Donc le MRAP était présent, et le but étant évidemment d'avertir un petit peu sur les nouvelles lois qui se profilent et qui visent à pénaliser l'immigration subie au profit d'une immigration choisie. Voilà, alors pouvez-vous nous parler de ce débat ?
Mais écoutez, d'abord, c'était une réunion de mobilisation contre le projet de loi qui va commencer à être examiné par l'Assemblée nationale à partir de la semaine prochaine. Donc nous sommes devant aujourd'hui un nouveau texte de loi qui est le troisième en moins de cinq années, ce qui prouve que, y compris avec le même gouvernement, on fait des lois qui ne sont peut-être pas complètes, la preuve, puisqu'on est obligé d'en refaire une troisième. Donc, et là, cette fois-ci, nous sommes sur un registre particulièrement inquiétant, puisque c'est une loi qui va mettre à mal ce droit et cette liberté fondamentale qui est le droit de vivre en famille. Et donc là aussi, je pense que nous estimons que aujourd'hui, il y a déjà des conditions drastiques pour pouvoir vivre en France et vivre en famille. Il y a aujourd'hui, disons-le clairement, dans le cadre de ce projet de loi, la prolongation de cette terrible politique d'immigration qui est d'une cruauté sans égale, je dois m'exprimer ainsi, et qui est à la fois inhumaine. Et quand on pense que aujourd'hui le ministre de l'immigration et de l'identité nationale a sermonné des préfets pour leur demander une obligation de résultat en termes de quotas d'expulsion, comme si il n'y avait pas d'humanité dans le traitement de ces personnes et qu'il fallait à tout prix faire du chiffre, eh bien on voit bien que cette inhumanité, cette politique qui consiste à vouloir faire du chiffre, dont on a vu les dégâts et les ravages avec les épisodes qu'on a vus cet été, et notamment ce môme qui a failli mourir en se jetant
qui est passant par le balcon.
Par la fenêtre. Bon, et donc la rencontre d'hier, c'était une rencontre pour dire que nous n'acceptons pas la logique que l'immigré soit jetable et corvéable. On n'accepte pas aujourd'hui cette politique du chiffre. On n'accepte pas le fait que on aille sur cette logique qui consiste à, d'une certaine manière, à faire du vide vis-à-vis des immigrés qui sont ici, en restreignant de manière drastique tous les droits et droits liés et libertés fondamentales, pour pouvoir laisser de la place à une autre forme d'immigration type coloniale, puisque ce qu'on appelle l'immigration choisie, c'est-à-dire hier, il faut être très concret, on allait chercher ces hommes et ces femmes par rapport aux bras et par rapport à leur force de travail, maintenant, eh bien, on va aller les piller, soi-disant, les cerveaux pour pouvoir être, j'allais dire, compétitifs dans ce nombre de secteurs. Donc, nous avons estimé que cette politique, qui est une politique à la fois égoïste d'une certaine manière, et en même temps cruelle par rapport aux expulsions, et en même temps qui ne règle pas les problèmes. Parce que on ne réglera pas la question ou les questions que représente l'immigration et qui révèlent ni plus ni moins que les souffrances et les déchirures du monde, la réalité des pays mouroirs, uniquement par des mesures qui peuvent être des mesures d'ordre policière, sans une véritable politique qui, à l'échelle européenne, participe à éradiquer les causes de l'immigration, les causes de cette misère du monde, eh bien tout le reste restera de l'instrumentalisation politique du thème et avec des dégâts tout à fait importants vis-à-vis des personnes.
D'accord. Est-ce que on peut rappeler les points très importants de cette nouvelle loi, puisque donc ça vise à plus ou moins interdire le regroupement familial, mais il y a aussi toutes des mesures sur la connaissance de la langue et des formes de stage, je crois, concernant les valeurs de la République. Est-ce que vous avez des précisions, par exemple, sur les contenus de ces stages? Qu'est-ce qu'on leur demande exactement? Puisqu'il y a aussi des signatures de contrats, je crois, vis-à-vis des enfants, enfin, des choses comme ça qui peuvent apparaître assez compliquées.
Oui, c'est-à-dire que, au-delà du fait qu'on a mis des conditions drastiques de revenus, de logement vis-à-vis des populations immigrées pour permettre leur regroupement familial, chose qu'on ne met pas aux autres, comme si les immigrés qui vivent en France n'avaient pas aussi des difficultés comme l'ont un certain nombre de Français par rapport au logement. Donc on demande effectivement des revenus conséquents, plus de 1,5% du SMIG, plus je ne sais plus combien d'euros par enfant, et puis aussi des conditions de logement drastiques, c'est-à-dire un certain nombre de mètres carrés en fonction du nombre de personnes, chose qui existait déjà jusqu'à présent et qui posait déjà quelques difficultés. Et en même temps, aujourd'hui, ce sont des éléments supplémentaires pour, aujourd'hui, mettre des obstacles à cette possibilité de regroupement familial. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément concerne cette présomption de l'inadaptation de ces immigrés aux valeurs de la République. Et là, effectivement, on pose des exigences. Moi, je suis tout à fait d'accord. Quand on arrive dans un pays, il faut qu'on soit capable de parler le français. Or aujourd'hui, je peux vous dire qu'on expulse des gens qui sont des immigrés qui viennent des territoires francophones et qui connaissent parfaitement le français et qui connaissent aussi parfaitement les règles de la République. Donc c'est une sorte de faux prétexte. Donc on pose déjà ces conditions et en même temps, en disant que tous ceux qui pourraient venir, eh bien, doivent faire des stages dans les capitales des villes d'émigration et avec un examen avant de venir sur le territoire français. Donc ça, c'est un élément qui est un élément, disons-le clairement, qui est un élément dissuasif et une barrière supplémentaire qui est mise dans le pays d'origine.
Excuse-moi, là, ça veut dire que la France serait en contrat avec les pays en question qui sont d'accord pour passer ces sortes de diplômes directement sur leur territoire.
Absolument, ils doivent faire des stages, etc. Et je pense qu'il faut quand même dire la vérité, c'est qu'il y a même des contrats, et c'est une nouvelle réalité aujourd'hui de la politique française en matière d'immigration, avec un certain nombre d'États où on conditionne un certain nombre d'aides financières à la capacité de ces États à faire la police de l'immigration dans leur propre pays. Et ça, c'est aussi une réalité, et on a pu le voir dans un certain nombre d'endroits, dans des pays africains, où un certain nombre de régimes ont accepté et acceptent d'être, d'une certaine mesure, le bras armé de Nicolas Sarkozy dans les pays d'origine. Donc c'est aussi une réalité. Donc je pense qu'on est dans une logique qui est une logique, disons-le clairement, hein, qui est une logique à la fois d'une Europe forteresse, d'une Europe qui se dit aujourd'hui, et d'une France qui se dit, eh bien, nous souhaitons, nous, tout simplement, utiliser l'immigration en fonction uniquement de nos besoins spécifiques et pas en fonction des intérêts mutuels, parce que le co-développement, c'est ce qui peut permettre à la France et à l'Europe, et aussi aux pays d'immigration, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de bienfaits. Or, ce qui n'est absolument pas le cas. Et puis d'autre part, je pense qu'il ne faut pas non plus occulter l'instrumentalisation politique de cette nouvelle loi, qui augure d'autres lois, m'a-t-on déjà dit, puisqu'on nous a déjà prévenu que l'année prochaine, il y aurait une autre loi supplémentaire sur l'immigration. Alors là, encore une fois de plus, on se rend compte à la fois que, eh bien, dès qu'il y a quelques difficultés, et une fois de plus, premier texte à l'Assemblée nationale, l'immigration, comme si c'était la seule et unique problématique auquel on était confronté.
Alors, les pays qui acceptent de jouer ce jeu, c'est forcément en échange d'un certain nombre de données économiques, hein.
Non. Oui, bien sûr, c'est en fonction non seulement d'un certain nombre de données économiques, bien évidemment, et puis en fonction d'un certain nombre d'aides et un certain nombre de marchés, ça on est tout à fait d'accord. Mais malheureusement, on en est, y compris, c'est le problème des liens entre les États et les incidences vis-à-vis des peuples. Certains pays mouroirs, soit par des dictatures, soit parce que les peuples sont complètement saignés et exsangues, eh bien ces pays-là qui sont des pays d'émigration, eh bien on confie, c'est là le paradoxe, aux dirigeants qui sont parfois responsables de la situation, eh bien le soin de gérer cette problématique dont ils sont eux-mêmes la cause. Et là effectivement, on est dans des choses complètement anachroniques. Alors ça passe évidemment par des aides, les aides financières, et on sait particulièrement que certaines aides qui sont envoyées par la France ou même d'autres pays à ces pays-là, et pas à ces pays-là, pas au peuple, aux dirigeants de ces pays, se retrouvent souvent dans un certain nombre de coffres-forts en Suisse, etc. Donc là aussi, on est sur des logiques où il faudra un jour ou l'autre une transparence dans ce domaine-là.
Ça ressemble un petit peu à une nouvelle forme, une forme, on peut dire, contemporaine d'esclavage, non ?
Absolument. Je pense que c'est tout à fait une réalité. C'est que l'esclavage, ça a été une façon, à un moment donné, d'asservir des gens, d'exploiter leur richesse, leur territoire au profit d'intérêts spécifiques, eh bien, on est exactement dans la même logique, puisque aujourd'hui, non seulement on n'est pas là pour exploiter les ressources naturelles, c'est plus nécessaire, il y a des entreprises qui vont sur place avec des délocalisations, mais en même temps, on organise une sorte de pillage des cerveaux.
Très bien. Eh bien, je voulais quand même signaler que donc cette loi qui va être présentée à partir du 18 à l'Assemblée nationale fait déjà l'appel d'une première manifestation, donc le mardi 18 à 18h devant l'Assemblée nationale. Pour ceux qui voudraient protester, on prend le métro et on descend à l'Assemblée nationale, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. Moi, je crois qu'on est au début d'une mobilisation. Alors, c'est vrai que l'opinion publique aujourd'hui, malheureusement, elle se trompe parce qu'on l'a trompée. On a vu pendant la campagne électorale comment on a réussi à enquister cette idée que les immigrés étaient en trop, hein, en parlant d'immigration subie par rapport à une immigration choisie. Et là encore, je trouve que c'est une façon de chosifier l'immigration qui est tout à fait indigne et inacceptable. Mais c'est le même fil qui coud l'attitude de d'Hortefeux qui organise aujourd'hui les expulsions à partir uniquement de petits bâtons sans prendre en compte à la fois la complexité de réalité humaine et en même temps la situation aujourd'hui que peuvent vivre des hommes et des femmes dans des situations de clandestinité extrême et de précarité en conséquence, hein. Donc on est dans une période où il va falloir non seulement se mobiliser contre les effets de cette politique du chiffre, mais en même temps il est important aussi de faire ce travail de pédagogie, d'information, pour dire qu'une politique cruelle, inhumaine, en matière d'immigration ne peut pas à elle seule régler la question de l'immigration. Et on voit régulièrement comment aujourd'hui, aux portes de l'Europe, alors que les immigrés qui fuient ces pays miroirs savent pertinemment que l'Europe se ferme à eux, et bien malgré cela, nous avons vu l'année dernière plus de 16 000 personnes qui ont quitté les côtes africaines, dont 5 000 ont péri, entre parenthèses, et ça ne les a pas dissuadés. Donc, tant qu'on n'aura pas posé la question de ce que révèle l'immigration et de réponses durables vis-à-vis des causes de cette misère du monde, eh bien, tout le reste n'aura comme incidence que de la souffrance et de la douleur.
Oui, très bien. Mouloud Aounit, on te remercie d'avoir été présent ce soir. Je sais que d'autres devoir t'appellent et que donc on va devoir nous quitter, nous. Je te remercie d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions sur le plateau donc, de Radio Béton. Et on espère avoir d'autres nouvelles de ce mouvement, surtout si ces mobilisations marchent bien. Un petit mot d'espoir?
Ben, le mot d'espoir, c'est que il est évident que la France a toujours été capable, lorsque l'injustice devenait ultime, à ce que des sursauts s'éveillent. Hein. Et on le voit bien, la loi, elle est ce qu'elle est, mais quand on voit sur le terrain, au cas par cas, eh bien, on arrive parfois à contrecarrer cela, parce que il y a effectivement des mobilisations, et je pense que rien ne vaut les mobilisations citoyennes. On a arraché, nous, il y a quelques jours, et j'étais très heureux, une grand-mère de 70 ans qu'on était venu chercher dans sa baignoire à Orléans, à Chartres, eh bien, il a fallu la mobilisation des amis, des voisins, et une grande partie de l'opinion publique pour l'arracher des griffes de cette expulsion. Et on le voit quotidiennement lorsque il y a une intervention citoyenne, que ce soit des maires qui organisent des parrainages, que ce soit des associations qui organisent des mobilisations contre des expulsions, avec la protection de la solidarité humaine et fraternelle, eh bien, il y a des victoires. C'est pour ça que s'il y a des auditeurs qui souhaitent rejoindre le MRAP, on a besoin, dans le contexte actuel, beaucoup de force, d'énergie. Eh bien, vous pouvez appeler au MRAP national, vous pouvez aller sur notre site pour récupérer nos coordonnées et puis nous rejoindre et on vous donnera les coordonnées du comité local.
D'accord, très bien. Alors justement, est-ce que tu peux nous passer l'adresse du
alors,
site?
Alors le MRAP, c'est 43 boulevard Magenta, 43 boulevard Magenta, 75010 Paris. Le téléphone, c'est le 01 53 38 99 99, 01 53 38 99 99. Et puis si vous faites Google MRAP, vous allez sur notre site pour avoir toutes nos prises de position.
Très bien. Mouloud Aounit, on te remercie d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Il faut avouer que pour nous, c'était un grand honneur de te recevoir. Et on te dit bonsoir et puis à d'autres luttes. Hein.
À bientôt.
Forcément,
et bon
on va y
être
un petit peu. Merci. Bonsoir.
Au revoir. Et donc, on va faire une pause musicale avec Hydra de leur opus Le Réveil du Versant Oublié. Et c'est une chanson qui est dédiée à Carlo Giuliani, un jeune manifestant qui s'était fait assassiner lors d'une manifestation à Gênes il y a peu de temps de ça, finalement.
Identité, mes vues ne sont pas les mêmes que ceux qui ont décidé d'aller à Gênes, reine de la Ligurie. Peut-être qu'on peut prendre ce qu'on nous fustande à le saisir. Au lieu d'exiger, on peut penser ce qu'on veut. Mais mon respect s'élève à ceux qui sont allés, qui ont décidé que cette ville serait la leur à tout prix aussi. Et que la caste qui gouverne n'a pas à désigner qui doit ou pas être là quand elle y va. Donc, honneur à ceux qui ont marché face au pouvoir, se protéger, combattu, affronté. Et comme le peuple d'Algérie, en l'honneur de ceux qui ont défié la folie, je crie pouvoir assassin. En l'honneur de ceux qui ont défié la folie, moi je crie
Politia, politia, assassini, Giotto, assassini anche. Politia, assassini.
dresser, à me dresser pour ceux qui ont quand même osé, malgré tout. Et je crache surtout sur ceux qui rigolent tranquille, de ceux qui sont partis disant que c'était joué. Pour ceux qui sont allés, qui ont morflé, c'est bien fait. Je vous méprise, ouais, telle est la mise. Facile d'avoir raison en s'écrasant de bon ton. Honneur au Black Bloc, au Tutti Bianchi, à tous les autres et sans nom. Seul le groupé, les arrêter, les rescapés. Car la flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler.
Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini.
Maintenant, après l'humiliation, courage bafoué, personne n'a rien fait, la torture, les charges, les coups. C'est la faute à personne, donc c'est la faute à tout le monde. Italie, Berlusconi, police fasciste, et tous les retards du G8. Honte à vous à jamais, qui prouvez combien du sang de vos peuples vous vous lavez.
Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini.
Police, assassin, une mémoire pour leur décompte, pour futur, pour les victimes. Que rien n'éteint jamais. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle.
Un socialiste, compagnon radical, ultra, révolutionnaire, anarchiste, etc., etc. Aussi je vais dans tous les métingues, jamais je ne rate une réunion. Et je passe mon temps chez les manzingues, où se compresse la révolution. C'est vrai que je comprends pas grand-chose à tout ce qu'ils disent les orateurs, mais je sais qu'ils parlent pour la bonne cause et qu'ils tapent sur les exploiteurs. Pourvu qu'on chine le ministère, qu'on engueule ton mal et ton tort, et qu'on parle de tout foutre par terre, j'applaudis d'achat et de tort.
Et oui, c'est foutre par terre, tout, je sais pas, pourquoi pas. C'est demain le grand soir, une émission sur Radio Béton 93.6 qui est rediffusée tous les lundis matins de 10h à 11h. Et donc, entre cette coupure musicale et une autre qui va venir dans très peu de temps, on fait une rapide pub d'ailleurs hein, sur notre journal, demain le grand soir, la chronique hein, qui vient de sortir. Donc, on en avait un peu parlé la semaine dernière. Et donc là, c'est carrément un 8 pages hein, qui sera disponible dans une bonne quinzaine d'endroits à Tours et puis à Amboise aussi au Café des Arts. Donc je ne vais pas faire toute la liste, au Bugs, au Donald, au Serpent Volant, au Barrio, au Bergerac, au Café, au Petit Soleil, au Shermlock, au Temps des Rois, enfin etc. etc. Le Bodman, le Sherlock Holmes, j'en passe et des meilleurs. Et donc ce numéro donc, où il y a eu pas mal de gens qui ont collaboré, il est assez riche, hein, un édito d'Edouard avec un article sur ce qui s'était passé cet été, là, le procès de de Romain, un manifestant donc anti-Sarkozy, des brèves aussi sur les privilèges en France et aussi la fameuse subvention, vous en avez parlé, accordée entre autres au Petit Monde. Hein. Un article aussi de critique contre un journaliste qui en fait qu'à sa tête et qui inabordable, qui s'appelle Christophe Collinet, qui est à la Nouvelle République. Et puis diverses choses, diverses et variées, notamment un article qui nous intéresse, puisqu'on aura une émission à la fin du mois là-dessus, sur la décroissance. Hein, c'est quelqu'un qui a été dans la Creuse et qui nous a fait un article sur la rencontre qu'il y a eu, la rencontre nationale qu'il y a eu cet été dans la Creuse sur la décroissance. Hein. Et on aura l'occasion d'en reparler à la fin du mois.
Oui, parce que je précise qu'on a invité une des personnes présentes et représentantes des objecteurs de croissance qui viendra, je crois, dans 15 jours.
Voilà, c'est
ça. À une émission.
Et donc, il y a aussi la chronique de la semaine dernière du sympathique David, qui nous reviendra a priori la semaine prochaine. La semaine prochaine aussi, de la pub dans ce numéro de rentrée sur la soirée de soutien à la niche libertaire, la librairie itinérante, qu'on va carrément inviter d'ailleurs la semaine prochaine, ça sera notre émission. Ils vont nous expliquer où ils en sont, puisqu'ils avaient l'intérêt de la soirée, c'est récupérer du pognon, parce qu'ils étaient, ils sont toujours itinérants et donc ils veulent s'installer sur un endroit à Tours. Il fallait récupérer 6000 euros, donc on fera le point avec eux, et puis on fera le point aussi sur l'idée de la niche, où ils en sont, quels sont leurs projets immédiats ou à long terme, etc. Et on va carrément se quitter là-dessus d'ailleurs, hein, et se donner rendez-vous dans les luttes, évidemment. Donc on vous invite, pour suivre tout ça, à consulter notre site, hein, demainlegrandsoir.org, hein, où il y a des tonnes et des tonnes d'articles, de reportages, de dossiers, il y a même de la musique, soyons fous, et il y a aussi un agenda qui est à peu près au courant de ce qui se passe dans le local. S'il y a même des dates qui sont avancées sur octobre, il y aura un truc de la Confédération Paysanne, on vous en parlera aussi. Et donc n'hésitez pas d'aller sur l'agenda pour avoir les dates, les lieux et les conditions des manifestations, quelles qu'elles soient, de lutte en tous les cas, qui se passent sur le département. Donc là-dessus, on va se quitter avec Guerrier Pacifique. Hein, c'est un truc qu'on a passé à plusieurs fois sur l'antenne. C'est un truc qui est absolument excellent. Il y a tout un tas d'artistes qui ont participé. C'est fait pour le MRAP, justement, on vient de les inviter. Mais aussi Droit Devant, France Terre d'Asile, le réseau Éducation Sans Frontières, etc. etc. Et donc là, c'est Fakir LC qui nous chante Droit Devant. Et puis on se dit évidemment à la semaine prochaine et dans les luttes, je l'espère. Salut à tout le monde.
De mon teint, jusqu'à ne pas aimer mon teint. Moi je te parle de mes timbres éteints. Ton format, téléviseur te formale. À la vie tu te formates et ton esprit s'efforce. Ça se force à nous détester. Tout le monde se mobilise, hein. Les infos sont formelles, la vérité est déformée. Ne forme qu'un tas de mensonges. Bienvenue au pays des droits de l'homme. Liberté, égalité, un droit d'honneur. Leur collecte des sommes, pas des sources mais bien des hommes. C'est bien une âme qui nous anime, qui sont la bienvenue dans ma zone. Clair que c'est des mômes, pas des rats mais bien des mômes. C'est bien une arme qui cache à l'ombre et ouais, bienvenue dans ma zone. Leur collecte des hommes, pas des sources mais bien des hommes. C'est bien une âme qui nous anime, qui sont la bienvenue dans ma zone. Clair que c'est des mômes, pas des rats mais bien des mômes. C'est bien une arme qui cache à l'ombre et ouais, bienvenue dans ma zone. Ok tu parles de mes mômes, les compares aux démons mais tu pars. En coup de bonhomme ouais tout part. Nos vies t'as vu nos mines, hein. Nos mille et nuits passées en garde. Jaloux t'as le seum de voir que nous on brave ça. Pigmentation criminelle, dangereux homme à nègre. Arabe on nous dénigre, la France lit nos livres. Les yeux fermés mais c'est d'une main ferme que j'affirme être originaire d'un peuple qu'on a faim. La vérité c'est que t'aimes pas ce qu'on est, ni ce qu'on a. La vérité c'est que nos couleurs dans vos infos. Les scandales, on met ce qu'on a dans nos affaires avec la rue comme soutien. Les scandales dans nos affaires tant que mon avenir saccagé sous le tien. Collecte des hommes, pas des sources mais bien des hommes. C'est bien une